CFORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous. Vous êtes, sachez-le, de plus en plus nombreux à nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez réagir, vous le savez, sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter CFORadio-TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Jacques Potvin, président de JP International, présent dans 190 bureaux dans le monde, s'il vous plaît. Et Ludovic Béribos, associé chez EPSA. Bonjour messieurs.
Bonjour Richard.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous recevons par téléphone Raphaël Vivette, qui est directeur du contrôle financier de l'ISI. Bonjour Raphaël.
Bonjour Richard.
Alors,
bonjour,
vous êtes Raphaël. Chambérien, né à Chambéry, ouais, hein, pour ceux qui ne savent pas. Vous avez une maîtrise en sciences de gestion. Vous avez toujours su, vous, que la finance, c'était votre truc, hein.
Ah oui, depuis très tôt, hein, dans le cursus scolaire et universitaire, on va dire que la vocation pour la finance s'est développée relativement rapidement. J'ai pas eu à chercher pendant trop longtemps sur mon avenir professionnel. Hein. Ça s'est éclairci, j'ai eu beaucoup de chance. Hein,
ça, c'est pratique.
Ça s'est allé très très vite, effectivement.
C'est très bien. Alors, vous allez rester 5 ans chez Delphi, une entreprise américaine, équipementier automobile, déjà, mais dans plusieurs lieux, hein, pas en un seul endroit, je crois.
Absolument. Alors en fait, 3 expériences différentes chez Delphi, donc c'était assez riche. Hein. Une dans l'est de la France, hein, près de Sochaux en fait, hein, Delphi avait mis en place des systèmes de livraison en juste à temps pour Peugeot. Ensuite une expérience, donc là c'est une expérience usine, hein, création d'usine. Ensuite sur un centre technique européen dans la région de Paris, c'était à Villepinte à l'époque. Donc là on était plutôt sur de la recherche et développement. Et ensuite une usine de batterie, grosse usine de batterie également européenne. Pour Delphi également, du côté de Sarreguemines, dans l'est, dans le grand est de la France. Ouais, voilà.
Là, c'est vraiment l'est. Qu'est-ce qui vous fait partir
absolument.
De Delphi? Qu'est-ce qui vous en fait partir?
Alors, raison personnelle, rapprochement géographique, on va dire, puisque Delphi est une très très belle société, j'ai de très bons souvenirs, et ça m'a vraiment mis sur les rails, hein, société américaine, extrêmement structurée. En fait, Delphi est issu d'un spin-off General Motors, hein,
donc d'accord.
On est sur des processus globalement financiers, encore une fois, très très bonne école, très structurée, avec des choses qui sont extrêmement claires, précises, donc c'était, pour commencer, on va dire que c'était un très très bon point de départ. Une carrière professionnelle dans la finance.
Ouais, j'imagine. L'Amérique vous a plu visiblement parce que quand vous rentrez chez l'ISI, donc toujours, on va voir ce que c'est, hein, mais c'est quand même le secteur automobile, vous repartez quand même aux États-Unis.
Alors, d'abord une petite dizaine d'années chez l'ISI en France, hein, dans le siège de la division automobile, effectivement. Et ensuite, donc dans différentes positions, différents postes dans notre division auto. Hein. Et effectivement, en 2011, je suis parti 3 ans hein, sur un poste de directeur financier pour les opérations nord-américaines, mais cette fois-ci pour la division aéronautique du groupe l'ISI, hein, puisqu'on a 3 grosses divisions, on y reviendra peut-être.
Bah justement, qu'est-ce que c'est
groupe, hein.
Dites-nous. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'ISI, justement? Ça fait quoi? Ça fait énormément de choses.
Alors, bien sûr, oui, on a un panel. L'avantage, c'est qu'on a des activités qui sont extrêmement variées, hein, d'où la richesse du poste, je dirais. En fait, on a 3 divisions à l'intérieur du groupe l'ISI. Hein. L'ISI, je redonne quelques chiffres. Avant crise, c'était 1,7 milliard, hein, à peu près, de chiffre d'affaires.
D'accord.
13 pays sur tous les continents. Hein, et ensuite, en gros, c'est entre 47 et 50 usines de fabrication. Donc, les 3 grands domaines d'activité. Le plus gros, c'est l'aéronautique. Vous parliez d'automobile, effectivement, qui est important chez nous, mais le plus gros secteur, c'est vraiment l'aéronautique. Ensuite, on a des activités dans l'automobile et dans le médical. Alors, nos activités, en fait, consistent à développer, concevoir des systèmes de fixation à très haute valeur ajoutée pour les différents domaines d'activité dont je viens de citer, dont je viens de parler. On va avoir, pour illustrer un petit peu, hein, dans l'aéronautique, ça va être des fixations pour les ailes d'un avion. Donc, ce sont des pièces extrêmement techniques, hein, comme vous pouvez vous en douter, très fortes exigences en termes de qualité, bien sûr, des pièces en titane, avec des savoir-faire là qui datent. Alors, principaux clients chez nous, on est de très longue date chez des clients comme Airbus, chez Boeing, hein, qui sont nos très gros clients, mais également une très forte activité dans la partie moteur de l'avion. Là, on va être dans les bords d'attaque, les lèvres d'entrée d'air. Donc là, on est sur des produits extrêmement techniques et on va adresser des clients comme Safran.
D'accord.
Et leurs fameux moteurs LEAP avec lesquels ils équipent notamment les avions Airbus, les avions Boeing. Donc ça, c'est l'aéronautique. Vraiment, c'est le gros. On va dire que ça représente 60% du chiffre d'affaires à peu près.
Très bien.
Ensuite, on a 30% du chiffre d'affaires, c'est de l'automobile. Alors là aussi, hein, on est dans la fixation principalement, des systèmes de fixation extrêmement techniques, forte valeur ajoutée, qui vont adresser des sous-ensembles qui seront destinés à des systèmes de freinage. Par exemple, voilà, on a des pièces, les hydres, à peu près tous les véhicules qui roulent dans le monde, vous devez avoir à un moment donné une pièce qui vient chez nous, c'est clair, parce qu'on fait partie des gros équipementiers mondiaux. Alors, on adresse aussi bien les tier 1 que les OEM. Quelque part, on est un peu le tier 1 du tier 1. Voilà. Donc là aussi, très très forte activité. C'est un peu l'historique. Hein. D'ailleurs, l'activité du groupe Lizzy a commencé historiquement par l'automobile. Et enfin, la dernière activité, médicale. Donc là aussi, on est dans de la fixation. Voilà, on n'est pas en train de fixer des ailes d'avion ou des sièges de voiture. On est dans la fixation de l'humain.
Hein, la machine humaine.
La traumatologie. Donc on va faire des plaques, voilà, des plaques en titane. Alors le dénominateur commun, on peut me dire, entre tous ces métiers, par exemple, entre l'aéronautique et le médical, ça va être le travail du titane.
D'accord.
On fabrique des hanches en titane, des prothèses de genoux en titane, etc., etc. Donc ça, c'est la troisième activité, c'est la dernière qui est rentrée dans le groupe. Hein, c'est beaucoup plus récent que la partie automobile et que la partie aéronautique, mais ça grossit également via des acquisitions externes notamment.
Eh ben, on va entrer dans les détails avec Ludovic Beribos.
Bonjour. J'ai vu effectivement que Lizzy avait été particulièrement résilient pendant la crise. J'ai lu effectivement un document de travail, notamment sur le New Deal qui a été mis en place, notamment par la fonction finance. Est-ce que vous pourriez nous en toucher quelques mots sur les facteurs clés de succès qui vous ont permis de résister à cette période ?
Oui, alors Ludovic, effectivement, c'est une bonne question. Bonjour. Je vois que vous êtes bien renseigné, donc c'est bien. Effectivement, New Deal, c'est un des projets phares qui nous a permis de passer la crise et surtout de structurer les actions qui ont été mises en place pour faire face à la crise. Deux grands volets dans le New Deal. Un volet d'abord adaptation très court terme. Évidemment, il a fallu réagir très vite à une crise dont l'ampleur a été... On n'a jamais vécu ça. Hein. En tout cas, on peut remonter très très loin dans l'histoire pour remonter à une crise de cette ampleur-là. Donc il a fallu d'abord s'adapter. C'est le premier volet dont je vais parler. Et ensuite, il y a un deuxième volet où on a continué à rester très actif malgré tout sur le développement commercial, l'innovation notamment. On n'est pas resté prostré dans notre coin, on a continué à aller chercher du business, à aller chercher des nouveaux produits pour assurer la pérennité et l'avenir du groupe. Donc il y a deux grands volets, effectivement, à ce New Deal. Sur la partie ajustement des coûts, il est clair que la fonction finance a été absolument clé. Hein, parce que pour être capable d'adapter, il faut déjà savoir où sont les principales, c'est un peu basique, mais où sont les principales sources de coûts. Et une fois qu'on a compris où c'était, alors on le comprend, puisqu'on a une culture financière chez Lizzy qui est extrêmement forte. Ça, c'est un historique aussi groupe, hein, c'est ce qui fait la force du groupe Lizzy. Il a fallu passer très très vite en mode adaptation des coûts et en mode gestion, ce qu'on appelait un mode gestion cash. Hein, en période de crise, le cash est absolument clé, encore plus que d'habitude. Puisqu'il faut assurer la pérennité, basiquement, la pérennité de la société. Alors, pas de souci de pérennité dans le groupe Lizzy, on a une structure financière qui est extrêmement forte, mais la structure financière est forte puisqu'on a cette culture du groupe, cette culture financière à l'intérieur du groupe qui nous a permis depuis des années d'avoir, encore une fois, un bilan qui est extrêmement fort et des équilibres financiers qui sont extrêmement forts. Donc, la fonction finance n'a fait, je dirais, dans cette structuration de plan, qu'apporter des outils d'analyse, qu'apporter des outils de prévision qui ont permis à la direction générale, dont la finance fait bien entendu partie, qui ont permis d'aller chercher immédiatement les leviers qui ont permis de passer la crise. Alors attention, je suis prudent, de bien passer la crise, hein, puisque la pérennité du groupe, encore une fois, n'est pas en question, voire même le groupe a continué à se désendetter pendant la crise, hein, ce qui n'est pas une mince affaire.
Ludovic,
la fonction finance a été absolument au cœur du système décisionnel dans cette période.
Raphaël, on parle beaucoup de la finance, on parlait du dénominateur commun tout à l'heure, j'aimerais savoir comment a pu contribuer les achats, puisqu'on sait qu'ils sont normalement contributifs aussi à la performance financière. Quel rôle ont joué les achats et la supply, justement, dans l'optimisation de cette période ?
Alors, extrêmement important aussi, ça c'est clair, et on travaille de concert. Bien entendu, quand on parle de gains, que ce soit des gains industriels, des gains achats, la fonction financière travaille beaucoup avec les équipes achats ou avec les équipes industrielles, les équipes opérationnelles, pour qu'on s'accorde sur ce qui est un gain, déjà. Comment on le calcule, ça c'est absolument fondamental, pour être certain qu'on ne se raconte pas, c'est un peu trivial, mais qu'on ne se raconte pas des histoires. faut être certain que quand on parle d'un gain ou qu'on calcule un gain, on le retrouve de manière effectivement dans nos comptes de résultats et dans notre cash. Ça, c'est absolument clair. Donc vous avez raison, bien sûr, j'ai parlé de la finance puisque c'était la question, mais l'ensemble des services et de la supply chain ont dû s'adapter extrêmement vite. Je parlais de cash. Dans le cash, forcément, on va rentrer dans les notions de BFR, on va rentrer dans les notions de stock. Il a fallu que la supply s'ajuste de manière extrêmement rapide pour ne pas laisser justement filer les stocks et avoir des niveaux de stocks qui continuent à baisser malgré la crise.
Juste Raphaël, peut-être en transition, les fonctions sont centralisées aujourd'hui au niveau effectivement de l'ISI ou chaque ligne de métier intervient de façon complètement autonome et vous êtes en coordination ?
Alors, on laisse beaucoup d'autonomie à nos divisions, hein, puisqu'on est sur des métiers qui sont différents, avec des marchés différents, des clients différents. Donc, on peut absolument pas se permettre d'avoir une approche qui soit copier-coller, je dirais, d'une division à l'autre. Néanmoins, notre rôle, effectivement, en fonction de holding, la holding aujourd'hui, c'est une vingtaine de personnes, hein, la holding du groupe Lizy. Hein. Donc, nous, on a un rôle, effectivement, de coordination, de donner les grandes orientations stratégiques et de structurer les approches. Au niveau de la finance, on a un programme extrêmement structuré qui s'appelle le COS, hein, Controlling Operating System, qui est un système qui permet, qui a été déployé sur l'ensemble des usines, l'ensemble des divisions du groupe, qui permet de déployer les standards, de sortir les benchmarks, de transversaliser les benchmarks. Donc il y a effectivement un rôle quand même de notre côté qui est extrêmement important de coordination et d'animation de ce qui se passe dans les divisions, quand bien même, encore une fois, elles ont de l'autonomie dans leur prise de décision au quotidien.
En tout cas, on vous sent bien affûté. Jacques Potvin.
Alors dans cette période compliquée, vous parliez de la gestion des stocks en quantité, il faut les valoriser, et alors il y a un gros impact de sous-activité.
Absolument, alors ça c'est, vous doutez bien que nos commissaires aux comptes, ils sont, étant cotés, hein, on ne l'a peut-être pas précisé au départ, mais société cotée, on a effectivement des impératifs.
Côté ou non côté, la sincérité comptable, elle vaut pour tout.
Absolument. Mais je dirais encore plus peut-être quand on est côté, hein, on est sous les feux de la rampe en matière, sous les projecteurs, avec donc commissariat au compte, hein, qui est le cas d'ailleurs dans les sociétés non cotées. Ensuite, on a des institutions comme l'AMF également derrière, qui nous demande quand même un certain nombre de produire un certain nombre de documents et d'explications et de justifications. Mais ceci étant dit, il est clair que le retraitement de la sous-activité en pareille période est absolument fondamental. On va se permettre d'intégrer, sans être trop technique, mais vous le savez, la sous-activité dans nos stocks. Ça, c'est clair.
Et si je puis me permettre de vous interrompre,
oui, je vous en prie.
Pour vous aider un tout petit peu, mais entre guillemets, entre ce qu'on a imaginé, c'est-à-dire une crise qui devait durer 2 mois, ce qui s'est passé à la fin de l'année et ce qui se passe en début d'année, comment, entre guillemets, on fixe le niveau de la sous-activité par rapport à la fois à une crise sanitaire longue et beaucoup plus longue que tout le monde l'avait prévu et dont aujourd'hui personne ne sait estimer la durée, et à quel moment, entre guillemets, vous considérerez que vous avez atteint un niveau d'activité normal, compte tenu notamment des conséquences que sera durablement sur le commerce des avions et le trafic aérien.
Absolument, c'est très clair. Alors écoutez, on a fait, on est allé au pratico-pratique. On a quelque chose qui s'appelle un budget. Donc, on a des budgets qui sont révisés toutes les années. Mmh. D'accord. Le budget, c'est la base de calcul de nos prix de revient. Donc, ils sont actualisés théoriquement en fin d'année en fonction des coûts réels. Compte tenu du contexte actuel, qui encore une fois n'a jamais été ni vu ni connu dans le passé, on a pris le parti de conserver les standards, ce qu'on appelle les standards. C'est-à-dire qu'on a gardé nos coûts budget pour valoriser nos stocks. Le retraitement de la sous-activité, et vous l'avez touché du doigt, aurait été d'une complexité absolue, compte tenu de la diversité de nos activités, de la diversité et de la vitesse à laquelle nos entités ont été touchées par la crise, puisque la problématique, en plus de la crise, qui est une baisse d'activité globale, certes, mais qui n'a pas eu lieu, en plus, à la même vitesse sur tous les continents. Hein, tout est parti de Chine, on est passé par l'Europe, et on est passé ensuite, on est arrivé aux États-Unis. On a des activités, l'ISI a des activités sur l'ensemble de ces zones géographiques. Donc l'ampleur de la crise n'a pas été de la même intensité au même moment sur l'ensemble de ces activités. Donc il aurait en plus fallu déployer des méthodes de calcul qui soient adaptées à chacune des zones en fonction du moment et de l'ampleur dans laquelle on se trouvait dans la crise. Donc, c'est absolument pas gérable. Donc là, d'un commun accord avec, justement, je parlais des commissaires aux comptes tout à l'heure, avec lesquels on travaille de manière très, très proche, on a pris le parti de, pour l'instant, pour pas perdre nos repères, justement, pas perdre les repères, de garder nos coûts standards, au moins pour l'exercice, c'est ce qui a été fait pour 2020. Il y a encore un peu tôt pour en parler pour 2021, mais on voit bien que 2021 sera encore, de toute façon, une année, on qualifie d'une année de transition. On n'attend pas de reprise d'activité forte dans l'aéronautique. Hein. Si je vous disais le contraire, je pense que vous ne croiriez pas. Donc, on n'est pas du tout dans une année de reprise pour l'automobile, pour l'aéronautique, excusez-moi. Par contre, pour l'automobile, les choses risquent d'être un petit peu différentes. Donc là, pour le coup, on va peut-être être un peu plus fin dans la manière d'appréhender les choses.
Allez, on croise les doigts en tout cas. Pour terminer rapidement, Raphaël, absolument. Vous êtes, je crois, fan de Saint-Etienne, alors qu'on reste en première division cette année. Vous savez être dur, hein.
Ah non, mais ça, on va se maintenir. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun doute là-dessus. La résilience, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, les grandes équipes ne meurent jamais.
Une année difficile en tout cas. Merci Raphaël, merci également à vous, Jacques et Ludovic. Fin de ce numéro de CFORadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se retrouve mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de CFORadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.